Racontez ta petite histoire. Nous voulons voir Jésus. Et finalement, on a vu quelque chose, on a entendu quelque chose de Jésus dans les chants, et merci pour ça, je trouve. Et c'est quand même le but de mon message, c'est nous faire voir Jésus. Il s'intitule « Dans le Seigneur ». Il y a une notion, comment dire ça, théologique qui est extrêmement importante, c'est quand Paul essentiellement dit qu'on est en Christ, ou on peut prendre aussi Jean 15 qui dit qu'on est ancré dans le cep, être en Christ. En théologie, on appelle ça la doctrine de la participation. Okay. On est baptisé en Jésus-Christ, on est baptisé en sa mort, on est identifié avec Jésus, on est assis dans les lieux célestes en Christ, ou Éphésiens 2, 10. En réalité, c'est lui, Jésus, qui nous a fait, ou Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On est en Christ, on a été identifié avec lui, on a été mis en lui, mais pourquoi ? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. On est en Christ, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement, c'est théologique, mais c'est pour que ça se vive aujourd'hui. On est en lui pour ses œuvres d'aujourd'hui. La marche sur la terre, elle est extrêmement importante. C'est être en Christ et puis pas pratiquer ses œuvres bonnes, c'est ne pas être en Christ finalement. Et ce qui m'a frappé, c'est pour ça que je suis venu sur ce sujet, c'est que si ce terme « en Christ » revient très souvent dans les épîtres de Paul, il y a une autre expression qui revient encore plus souvent, c'est « dans le Seigneur ». Alors, ça se chevauche un tout petit peu, mais assez peu finalement. Être en Christ, être dans le Seigneur, ça se complète. Parce que dans le Seigneur, c'est dans la réalisation pratique. Il y a 45 passages dans les épîtres de Paul où c'est dit « dans le Seigneur ». Être convaincu dans le Seigneur, accueillir une personne dans le Seigneur, saluer quelqu'un dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire « saluer quelqu'un dans le Seigneur » C'est bizarre, hein ? Être appelé dans le Seigneur, travailler dans le Seigneur, être prisonnier dans le Seigneur, se marier dans le Seigneur, obéir à ses parents dans le Seigneur, espérer dans le Seigneur, tenir ferme dans le Seigneur, se mettre d'accord l'un avec l'autre dans le Seigneur, se réjouir dans le Seigneur, marcher dans le Seigneur, se soumettre aux autres dans le Seigneur, s'encourager dans le Seigneur, commander à quelque chose dans le Seigneur. Et on pourrait continuer. Ça m'a quand même frappé, hein, ces termes qu'on entend et qui sont... On les lit même plus tellement c'est quand même assez curieux, j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Première chose que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune dimension de notre vie dans laquelle le Seigneur est absent. Finalement, d'une salutation à la persévérance, à la joie, à marcher, à se soumettre, à se marier, toutes ces dimensions, le Seigneur y est présent. Quand il est dit « des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, marcher dans le Seigneur », ça recouvre l'ensemble de notre vie, des grandes choses jusqu'aux petites choses. Alors, cette semaine, j'ai pas mal réfléchi à tout ça. On peut suivre d'innombrables pistes. J'ai décidé d'en suivre une seule, c'est sur les choix qu'on fait. Et parce que c'est le passage sur lequel j'étais tombé qui m'a entraîné dans cette réflexion, et je vous lis. C'est dans Philippiens, chapitre 2, les versets 19 à 25, où Paul écrit « J'espère dans le Seigneur Jésus, j'espère dans le Seigneur Jésus de vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. » Verset 23 « J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. » Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, afin que vous ayez que vous aviez envoyé pour pourvoir à mes besoins. Pardon. Ce qui m'a frappé en lisant ça, c'est que si j'élimine dans le Seigneur, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. J'espère vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé. J'espère vous l'envoyer dès que je serai au clair. J'ai confiance que je viendrai bientôt. J'estime nécessaire de vous envoyer Epaphrodite, etc. Il y a une conduite normale. Paul, il réfléchit, il fait des plans, il a des désirs, il aimerait bien envoyer Timothée, il n'est pas sûr qu'il peut, alors il envoie quand même, il décide d'envoyer Epaphrodite, il a confiance que lui aimerait aller aussi, il exprime un peu des désirs, mais sans aucune certitude, même s'il dit « j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt », ça ne veut pas dire qu'il est sûr d'y aller. Ce n'est pas parce qu'il a confiance dans le Seigneur que ça va arriver ainsi. Un peu avant, dans l'Épître, au chapitre 1er, il dit qu'il est en prison et il ne sait pas si on va le condamner ou si on va le libérer. Il n'a aucune idée. Il ne sait pas que faire. Il ne sait pas que choisir, même s'il pouvait choisir d'ailleurs, mais il ne sait pas. Ce n'est pas parce que c'est dans le Seigneur que ça veut dire que ça va arriver de cette manière-là. Comme nous, il n'a aucun contrôle sur les circonstances extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire alors, dans le Seigneur? Qu'est-ce que ça rajoute à la conduite ordinaire de quelqu'un qui doit faire des choix, qui voit dans quelle direction il doit aller? Il me semble, en y réfléchissant, ça veut déjà dire que, quand il dit dans le Seigneur, ça veut dire que ses projets, ce qu'il a envie, il est conscient que c'est cohérent avec le Seigneur, cohérent avec ce qui est juste, cohérent avec la pensée de Dieu, cohérent avec ce qu'il connaît de Jésus et qu'il connaît de Dieu. Ce n'est pas des choses qui sont douteuses, c'est des choses toutes simples, hein. C'est des choses matérielles, mais ça veut dire qu'il est à l'aise, ça veut dire que face à ces choses-là, il a bonne conscience. Et il me semble un des côtés importants de faire les choses dans le Seigneur, c'est d'avoir bonne conscience. On peut se tromper, ça peut être faux, mais si je puis dire, je veux dire, je le fais dans le Seigneur, même si je ne comprends pas exactement ce que ça veut quand même dire que je peux déclarer ou vouloir cette chose-là en ayant un regard un regard honnête et simple devant Dieu. Mais il me semble qu'il y a une autre nuance quand on dit dans le Seigneur. Ça veut dire non seulement il est cohérent, mais ça veut dire qu'il a envie de faire les choses en communion avec le Seigneur. Il n'a pas envie de faire ce que lui veut, mais finalement ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut. Il peut ne pas le savoir, c'est des choix, il doit agir, il doit décider, mais il y a dans son cœur ce désir d'être non seulement cohérent, mais d'aller dans le sens de Dieu, de faire les œuvres préparées d'avance. Et je trouve vraiment important tout ceci, ça montre un peu cette articulation finalement entre nos décisions, la manière normal de vivre dans ce monde, celle qu'on a, on y est, oui, on doit décider, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Epaphrodite, voilà, sais-je. Et puis, le fait que Dieu est derrière, Dieu est dedans, et articuler à la fois le fait que je dois prendre mes décisions de façon responsable, et il y a d'autres passages que celui-ci, hein, et puis ce fait que, finalement, si je suis 100% responsable, bien Dieu est derrière. Et l'action de Dieu se tricote, se mélange avec ses décisions. Dans le Seigneur, ça veut dire que je suis confiant dans le Seigneur. Il est là. Et pour moi, je trouve, savoir que, par exemple, je vous donne un message, j'ai réfléchi, je viens avec mes hésitations, disons, mais j'ai confiance que c'est dans le Seigneur. J'ai confiance, ça donne une liberté, finalement une sécurité, pour venir vous parler en connaissant mes limites, ma possibilité de dire des bêtises qui existent. Hein, mais je peux agir avec cette liberté parce que le Seigneur est là. Et alors, dans la prédication, on est très conscient de cela. Quand on est, je ne sais plus quelles étaient les expressions, quand je salue quelqu'un, je ne vais pas réfléchir longuement pour savoir si c'est dans le Seigneur ou pas. Mais savoir que derrière tout acte, il y a cette présence, il y a cette personne qui est là, eh bien, ça donne une liberté pour faire les choses. Ça permet de ne pas, ça permet de ne pas craindre les échecs non plus, les erreurs. Il est là. Il y a un autre passage qui parle de cette articulation entre la conduite normale, si on veut, et puis ce que Dieu fait dans le Seigneur. Alors, il y en a d'autres, mais celui que j'ai choisi, c'est dans Philémon, cette fois, les versets 15 et 16. On m'a donné ça, j'avais oublié. Mais merci. Peut-être, Philémon, Onésime a été séparé de toi pour un temps, écrit Paul à Philémon, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Donc, je ne sais pas, vous vous souvenez, cet Onésime qui est un esclave qui s'était échappé est venu à Rome, si je me souviens bien, et puis il a servi Paul, et puis Paul, il ne trouve pas normal que cet esclave qui a filé son maître, il reste là, il le renvoie chez son maître en demandant au maître, Philémon, de le recevoir. Et la phrase qui m'a frappé, et cette traduction l'exprime bien, mais peut-être moins que des traductions plus littérales, il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, ce frère bien-aimé, dans vos rapports humains, et le texte original dit dans la chair et dans le Seigneur. Dans la chair et dans le Seigneur. Et la traduction, elle est bonne dans les rapports humains. On a souvent tendance à contraster la chair et l'esprit. Et c'est plein de passages qui nous disent qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. La chair, elle ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui est vraiment... c'est des pôles opposés, la chair et l'esprit. Mais la chair, ça a d'autres sens. Ici, c'est bien traduit, les rapports humains. Et ce n'est pas la seule chose. Mais la réalité terrestre dans laquelle nous sommes, elle demeure. On n'est pas des êtres purement esprit. On vit dans la réalité d'aujourd'hui. On est dans cette chair, dans nos rapports humains, dans toutes ces choses. Toutes les listes, accueillir une personne, saluer, être appelé, travailler, être prisonnier, c'est des choses qui sont dans la chair. Il y a peut-être des fois, dans nos conceptions, on a tendance à séparer deux choses. Il y a notre vie spirituelle, la vie avec Dieu, il y a toutes sortes de choses qui sont dans le Seigneur. Et puis il y a des choses qui nous semblent loin du Seigneur. Il y a toujours une chose qui me frappe, quand on parle de « dans le Seigneur », ou de ce genre de choses, on dit « ah oui, mais par exemple, prêcher, c'est une chose à l'église, mais servir le café, c'est tout aussi important. » Mais de nouveau, c'est servir le café dans l'église. Il y a un contexte dans lequel c'est normal d'introduire Dieu, mais il y a des tas de contextes dans lesquels on n'y pense même pas. Et pourtant, c'est important, c'est dans la chair. La chair, elle n'est pas mauvaise en soi. La nature humaine, elle est pleine de faiblesses et autres, mais on n'en sort pas, on est dans cette réalité-là. Et je crois que ces passages qui nous parlent dans le Seigneur insistent là-dessus, nous font sentir que c'est dans notre quotidien, dans les choses d'aujourd'hui, de toute simple, qu'il y a ce travail de Dieu dans le Seigneur. Mais je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je trouve souvent très difficile de discerner ce qui est dans le Seigneur et puis ce qui serait non pas simplement une bonne chose de la nature humaine, mais une chose tordue peut-être. Il y a quand même, en tout cas, j'en suis un peu libéré avec l'âge, mais il y a quand même des fois ce sentiment, comment dire ça, que si c'est bien, si c'est agréable, eh bien, c'est dans la chair, c'est pas dans l'esprit. Par contre, si c'est dur, si c'est du sacrifice, alors ça, c'est bien. Et c'est donc difficile des fois de discerner vraiment dans l'ordinaire si c'est dans le Seigneur. Comment discerner? Comment voir cette différence? Comment savoir si je salue quelqu'un dans le Seigneur ou pas? Si je travaille dans le Seigneur ou je travaille normal? Si je suis prisonnier dans le Seigneur? Non, mais est-ce que si je suis coincé dans quelque chose de ma vie où j'arrive pas à en sortir, est-ce que c'est dans le Seigneur ou est-ce que c'est quelque chose dont je dois absolument sortir? Qu'est-ce qui est dans le Seigneur? Mais rien que quand on voit cette liste, on se dit, c'est difficile de donner une recette. Je ne vais pas vous dire, il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Il y a toujours une tentation, quand on réfléchit à des problèmes un peu comme ceux-ci, d'essayer de trouver comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose, et dans ce cas-là, particulièrement à éviter, déjà pour donner une recette pour être, accueillir une personne dans le Seigneur, se mettre d'accord dans le Seigneur, être prisonnier dans le Seigneur, se soumettre aux autres dans le Seigneur, obéir à ses parents dans le Seigneur, c'est des situations tellement différentes, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une recette unique pour ça. Et puis moi, ce qui me frappe alors vraiment souvent, c'est la dispersion de personnalités qui sont les nôtres. On a des besoins, des approches, des réactions, ce qui nous touche ou ne nous touche pas, les choses qui nous sont difficiles ou pas, qui sont souvent extrêmement différentes. Et on a tendance à appliquer aux autres son propre fonctionnement. Et c'est souvent très faux. Et on est des fois vraiment à côté. Donc, les recettes, c'est peut-être pas ce qui est nécessaire. Ou c'est très ponctuel. Alors, ce que j'ai décidé pour finir, c'est plutôt que de faire ces recettes que je n'ai pas réussi à trouver de façon satisfaisante, je me suis dit, en fait, toutes ces recettes, toutes ces choses qu'on exécute, ces œuvres préparées d'avance, elles sont basées sur un même socle. Il y a quelque chose dessous qui les permet. Alors, je vous ai dit au début, il y a en Christ, dans le Seigneur. Mais plus profondément, quels sont, ou quelques-uns, des éléments, des bases qui nous permettent de vivre dans le Seigneur. Alors j'en ai énuméré quatre. Le premier, c'est dans Éphésiens. Voilà. Éphésiens 1, verset 9 et 10. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Voilà ce qu'il veut. Conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir... Quel est ce projet de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre? Je crois que j'ai déjà sûrement mentionné ce verset plusieurs fois, mais c'est absolument essentiel. Le but profond de Dieu, ce à quoi tout s'articule, c'est finalement de tout mettre sous l'autorité de Jésus. C'est le cœur. Nous, on réfléchit à toujours comment être fidèle, comment entrer dans les œuvres préparées d'avance. Pour Dieu, finalement, c'est que absolument tout dans l'univers soit cohérent, soit sous l'autorité, soit dans soit soumis à Jésus. Être soumis à Jésus dans le Seigneur, finalement, ça veut dire être sous l'autorité du Seigneur, puisque c'est le but de Dieu. Il y a toujours un passage qui me frappe, parce que souvent on le lit un peu, et des fois, de manière que je trouve partielle, c'est Matthieu 28, 19, 20, qui dit « Baptisez les disciples, ce sont ceux qui baptisent, et qui apprennent à obéir aux enseignements de Jésus. » On est baptisé parce que on est en Christ, il faut être né de nouveau. Mais ensuite, c'est quoi être un disciple? C'est apprendre à obéir à Jésus. C'est le cœur de notre vie. On est ici sur la terre pour apprendre à obéir aux enseignements de Jésus, à être, autrement dit, dans le Seigneur. Donc, une première chose, ce que Pierre-Claude a dit aussi au début, tout est centré dans la pensée de Dieu sur Jésus. Deuxième réflexion que j'ai eue, c'est ce que j'ai appelé la centralité du salut. Quand on lit la Bible, c'est quand même assez frappant de voir, il y a une chute au départ, et ensuite, toute l'histoire n'est que l'histoire du salut. Dieu veut sauver. On prend par exemple, on peut commencer par Israël. Et Israël est délivré de l'Égypte, passe la mer Rouge, il est sauvé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout un chemin où Dieu doit sans arrêt intervenir. Il passe le Jourdain, ok, et de nouveau, tout au long de cette longue histoire, eh bien, Dieu n'arrête pas de sauver son peuple. La Bible est l'histoire du salut. Et c'est vrai dans l'Église, c'est vrai jusqu'au bout. L'histoire sera finie, eh bien, le salut sera complet. Mais c'est une histoire de salut, une histoire de délivrance. Et notre histoire personnelle est aussi une histoire de salut. On est sauvé par grâce, on est né de nouveau, on est en Christ. Il y a cette réalité-là. Mais de la même manière que l'histoire de l'humanité, notre histoire personnelle, après avoir été sauvé, c'est de continuer à être sauvé. C'est d'apprendre à être sauvé, c'est d'être sauvé, mais finalement tous les jours. Tous les jours on est sauvé. S'il n'y avait pas un Dieu qui sauve, eh bien on s'effondrerait immédiatement. Si on n'est pas en Jésus, et si Jésus n'est pas, on ne fait pas les choses dans le Seigneur, mais on se trompe, on tombe. C'est normal d'avoir des difficultés, c'est central, il y a une nécessité des obstacles. Parce que on est ici pour apprendre le salut. On est ici pour apprendre à être sauvé par Jésus. On est ici pour apprendre à vivre de la grâce, à vivre pour Jésus, par Jésus. Et le salut nous apprend ceci. Il nous apprend une chose, c'est qu'on ne peut pas le faire seul. Il est impossible pour nous de nous sauver. C'est impossible pour nous de nous sauver initialement, on est mort dans nos péchés, mais c'est impossible pour nous de poursuivre le chemin de salut sans cette présence, cette constance, cette dépendance de Jésus. Même le péché. Si on veut, chaque épreuve, on est à peu près conscient qu'elles nous aident, qu'elles sont là pour nous faire dépendre de Dieu. Mais même le péché. Moi, je me disais, le péché, eh bien, il est, entre guillemets, pas grave, parce qu'il a été réglé à la croix. Mais il reste indispensable pour nous, je crois, pour nous apprendre notre incapacité totale de vivre tout seul. Quand je pêche, quand j'ai de la peine, ça me montre et ça m'apprend que sans être dans le Seigneur, sans Jésus à côté de moi, sans ce secours constant, sans intervention permanente de Jésus, je ne peux pas. Et pécher, ça nous démontre une chose, c'est qu'on n'a pas la capacité d'aller tout seul. Ça nous apprend, et c'est la leçon qu'il faut apprendre au travers de nos fautes et de nos péchés, c'est pas seulement la grâce de Dieu, mais le fait qu'on a besoin de lui quotidiennement. On a besoin de son pardon tous les jours, on a besoin de la force qu'il donne, on a besoin de comprendre ce qu'il est, on a besoin de grandir. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire, mais c'est profondément une réalité. Et ce processus de salut, si douloureux qu'il soit, c'est le but central de ce que Dieu a prévu dans cette histoire de l'humanité avec la chute. C'est qu'on apprenne à devoir dépendre de lui. On apprenne à faire les choses par le Seigneur. Troisième base, troisième chose sur laquelle on peut s'appuyer pour vivre par le Seigneur, c'est dans 1 Corinthiens 4, versets 3 à 4, où ça ne parle pas de par le Seigneur, mais je trouvais important. Pour ma part, dit Paul, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le Seigneur, ça veut dire faire les choses avec bonne conscience. Mais ce passage-là, il nous montre une chose, c'est que notre bonne conscience, elle est totalement insuffisante. On n'est pas capable de savoir vraiment ce qui est juste et ce qui est bon. Et une des tentations qu'on a, et en particulier quand on avance dans la vie chrétienne, on commence trop à savoir un peu ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et je crois qu'on a à être très modeste dans notre compréhension des choses, de croire qu'on sait. Non, on dépend de Jésus. Et faire les choses dans le Seigneur, c'est réaliser que moi, je ne sais pas vraiment ce qui est juste, ce qui est bon. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose que c'est juste. Je dépends totalement du Seigneur. C'est lui seul qui sait juger. Les autres n'ont pas à me juger, je n'ai pas à juger les autres. Mais le jugement que j'ai de moi-même, il est souvent vraiment, vraiment... Il est beaucoup plus faux, j'ai l'impression, que l'impression qu'on en a. On réalise bien qu'on est très limité, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus à côté. Et on a vraiment besoin de cette chose-là. Mais je trouve aussi que c'est extrêmement libérateur. Parce que si on peut faire faux, si c'est, on fait simplement les choses avec bonne conscience, mais on se rend compte qu'on se rate complètement, ben, c'est pas une catastrophe, c'est pas grave, le Seigneur est là. J'ai pas à avoir peur des échecs, j'ai pas à avoir peur même des erreurs et des choses. Je suis incapable, je dois compter sur Jésus. Et il est là. Il ne protège pas des erreurs. Je vous dis, c'est un chemin de salut. On a à apprendre. Donc ça va pas bien se passer tout au long. Mais il est là. Et on peut être tranquille, on ira jusqu'au bout. On peut être tranquille, et c'est mon dernier point, parce qu'il y a des promesses. Parce que Jésus, il s'est engagé. Alors, il y a plusieurs passages, je vous en lis deux ou trois, je ne sais plus si je les ai mis là ou pas. Non, tu peux revenir en arrière et cacher ça, merci. Premier passage, c'est de Romains 8, c'est archi connu, mais écoutez-les bien. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quoi qu'il advienne, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont en Christ, quoi qu'il advienne, rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. On peut faire des bêtises, on peut être à côté. On apprend le salut, mais on vit le salut. Et ce salut, il est garanti. Il ira jusqu'au bout. Rien ne peut nous séparer. Des fois, on a le sentiment, ben, là, j'ai fait ça en communion avec le Seigneur, puis là, même pas, non. Mais en fait, ce n'est pas parce que je le ressens comme ça qu'il n'est pas là. Il a promis. Et l'autre verset, c'est dans Matthieu 28, 20. « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça ne dépend pas de notre sentiment d'être dans le Seigneur, même si le sentiment de l'être est à rechercher, à recevoir une bénédiction. Mais il est là. Tous les jours, jusqu'au bout, on peut être assuré d'une chose, c'est que finalement, consciemment ou pas, on est dans le Seigneur. On est né de nouveau. On est sauvé. Il n'y a pas de risque. Ben, sur cette base, sur ces certitudes-là, comment les mettre en pratique? Comment, dans des cas particuliers, les articuler? Ben, je vous ai dit, je n'ai pas trouvé une manière simple de vous le dire. Alors, je me suis décidé, je vais vous laisser ça comme travail. Je vais pas, on ne va pas discuter ensemble maintenant, mais je vais vous demander, et tu passes la diapo suivante, de réfléchir à cette question. Parce que ce verset qui dit dans Philippiens 2, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et en profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Articule le fait que Dieu fait quelque chose en nous et puis le fait que dans notre nature, dans ce monde, on a à agir. Alors, c'est quoi ce projet bienveillant de Dieu? On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est de mettre tout sous l'autorité de Christ. Et comment ce projet bienveillant, si mon sentiment c'est vraiment que Christ est le centre et que Dieu veut tout en Christ, comment ça se fait dans ma vie? Quelles sont les attitudes qu'ils permettent? Qu'est-ce que l'Esprit me dit? Avec ce fait, je garde en tête un peu toutes les choses que j'ai dites, mais en particulier, ce fait que finalement, c'est Christ qui est le centre, c'est pas moi. C'est toute notre vie, tout ce processus de salut, Dieu l'a engagé pour Christ, pas pour nous, pour Christ. On fait partie, on est ensemble, il y a une relation, mais au cœur, c'est Jésus. Et je me dis, mais comment dans ma vie, Jésus est vraiment le centre? Alors, je vais y réfléchir encore, j'ai déjà réfléchi, je vais y réfléchir, mais je vous prie, demande d'y réfléchir. Je crois que c'est un bon sujet de réflexion. C'est peut-être un peu abstrait, je ne sais pas, mais il me semble que ça aide. Voilà. Ma Seigneur, on veut te demander de bénir ta parole. C'est vrai, c'est des mots, tout ça, mais derrière ça, il y a des réalités. La principale réalité, c'est que tu es présent, tu es là, tu travailles par ton esprit, tu es sans arrêt en œuvre pour nous porter. Ce salut, on l'a connu quand on s'est rencontrés, mais on l'a connu tous les jours de notre vie. On le connaît maintenant, on le connaîtra cet après-midi, on le connaîtra dans toute la suite de notre vie. Et je te prie qu'on puisse y entrer, qu'on en soit conscient, reconnaissant, admiratif, que Jésus, on te voit vraiment dans tout ce processus. Que nos vies nous permettent de te voir, toi, Seigneur Jésus, à l'heure, dans toute ta grâce et ta bonté. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de rendre ça vivant pour nous.